Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Maintenant, c'est le moment des lectures pour la prédication. Deux lectures. Déjà, le texte proprement dit de la prédication dans 2 Pierre. Au premier chapitre, nous allons lire les versets 3 à 19. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu Sa Majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Marc 9, 2 à 7. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Et un grand merci tout particulier à ceux qui ont prié pour moi. J'ai vécu quelques épreuves, mais j'ai aussi vu la main du Seigneur agir à des moments particuliers. Donc voilà, merci, c'est en réponse à vos prières, je suis reconnaissant. On vit dans un monde où les entreprises et les individus rivalisent pour nous présenter des méthodes pour rester en bonne santé. Les grandes entreprises y vont de leurs remèdes pharmaceutiques, souvent coûteux. Des individus font des vidéos, présentent des méthodes où ils révèlent des secrets qui au final ne sont pas forcément moins chers. D'autres écrivent des livres dans lesquels ils donnent des méthodes pour vivre en bonne santé. Et puis il y a ceux qui, plus ou moins qualifiés, font des blogs, des sites internet sur lesquels ils partagent leur savoir. Et en fait, ça reflète le grand désir dans notre monde occidental de vivre en bonne santé physique, d'avoir une bonne hygiène de santé. Mais qu'en est-il au milieu de tout ça de notre santé spirituelle ? C'est justement ce qui préoccupe Pierre dans le premier chapitre de l'épître que nous étudions, la santé spirituelle des croyants en vue de leur persévérance, en vue de notre persévérance. Avant de mourir, Pierre nous a laissé cette lettre comme un guide pour mener une vie en bonne santé spirituelle, pour déjouer les attaques des faux enseignants et vivre le reste de notre vie à la lumière du retour du Seigneur Jésus. Pourquoi ces choses sont si importantes ? Parce qu'ensemble, elles contribuent étroitement à notre persévérance jusqu'à la fin. Pierre veut nous donner tout ce qui est nécessaire pour que nous gardions une espérance ferme dans la vraie doctrine jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur. Alors qu'en pensez-vous ? Pour nous qui sommes environ 2000 ans plus tard, sommes-nous toujours encore concernés par ce qui est écrit dans cette lettre ? Oui, nous avons toujours encore autant besoin des précieux conseils de notre Dieu en vue de vivre une vie de persévérance dans la foi pour nous équiper aussi contre l'enseignement des faux prophètes. Et dans cette lettre, au deuxième chapitre, Pierre va dénoncer les faux enseignants. Mais avant de dénoncer l'erreur, il pose d'abord les fondements solides de ce qui est juste et sur lequel nous devons nous appuyer. C'est ce qu'il fait dans le chapitre 1, et c'est donc à ce stade-là qu'on est ensemble maintenant. Alors encore une information rapidement avant de passer au premier point. Pourquoi est-ce que j'ai laissé les versets 20 et 21 de côté ? Ça a peut-être surpris certaines personnes juste avant comme ça la fin d'un chapitre. C'est qu'en fait, ces versets plus les versets 15 et 16 du troisième chapitre représentent des versets clés sur l'inspiration et la façon d'interpréter la Bible. Et c'est pourquoi, Dieu voulant, ils donneront l'occasion à une prédication thématique sur le terme de l'inspiration et l'interprétation de la parole. Donc voilà pourquoi je les ai laissés. Donc en résumé, on a vu que nous sommes toujours autant concernés par cet épître que les premiers destinataires, et parce qu'autant qu'eux, on a besoin de directives de Dieu en vue de notre persévérance et que nous sommes tout autant concernés par la présence aussi des faux enseignants que nos frères et sœurs dans le passé. Le premier point, c'est en fait un rappel des versets 3 à 11 qu'on a déjà vu dans la prédication précédente, et qu'on pourrait résumer par la vie chrétienne normale. Je vous encourage à garder votre Bible ouverte pour pouvoir retrouver les textes. Donc dans les versets 3 et 4, Pierre débutait en nous rappelant le commencement de toute vie chrétienne. Il s'agit du salut et de ce que Dieu nous donne avec ce salut. Le salut commence par la puissance divine qui se met en action dans la vie d'un être humain pécheur. Elle le fait naître de nouveau et par cette nouvelle naissance, avec cette nouvelle naissance, Dieu lui donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Déjà ici-bas, Dieu nous a donné la vraie vie, cette vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Il nous a aussi donné tout ce qui est nécessaire à la piété en vue de notre persévérance. Quel soulagement, non? Dans l'œuvre de Dieu en nous, il ne manque rien en vue de notre persévérance jusqu'à la fin et de la vie éternelle à ses côtés. C'est lui qui est à l'origine de notre conversion et c'est lui qui pourvoit à tout ce qui nous est nécessaire pour une vie de fidélité ici-bas. Pour illustrer ça, la dernière fois, on avait vu l'image d'une graine d'arbre qui est très petite par rapport à l'arbre final et qui pourtant contient déjà tout ce qui est nécessaire à devenir ce grand arbre. Pas besoin de rajouter un morceau de tronc en cours de route ou de venir rajouter une branche parce qu'il manque quelque chose. Et cette graine contient déjà tout ce qui est nécessaire. De même, en faisant de nous une nouvelle création, Dieu a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous devenions un bel arbre bien développé, même si aujourd'hui on peut parfois encore avoir l'impression d'être plutôt une pousse qui sort gentiment de terre. De même, en faisant de nous une nouvelle création, Dieu a mis en nous tous... Mauvais paragraphe. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ce salut? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce salut? Rien. Comme Pierre le souligne à deux reprises dans ses versets, cela nous a été donné. C'est un don gratuit de la part de Dieu. On ne peut rien faire pour le gagner ou le mériter. On ne peut que le recevoir comme un cadeau. Ce cadeau, on le reçoit en raison de la gloire et de la vertu d'une personne. Comme le dit le verset 3, la gloire et la vertu de Jésus-Christ qui fait référence, la gloire et la vertu qui font référence bien sûr à la divinité de Jésus-Christ, mais dans ce contexte-là, qui fait tout particulièrement référence à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus, donc son salut. Cette œuvre parfaite dans laquelle Jésus-Christ, après avoir mené une vie parfaite et sans péché, est mort à la croix en portant nos péchés. C'est par la connaissance de Jésus-Christ que nous avons reçu ce don, ce cadeau sans prix. Alors si quelqu'un ici ne l'a pas encore reçu, c'est en vous approchant de Jésus que vous pouvez le recevoir, en reconnaissant devant lui que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même et en mettant toute votre confiance dans sa capacité à vous sauver. Par sa vie parfaite, sa mort à la croix et sa résurrection, il nous a acquis les promesses les plus précieuses et les plus grandes, verset 4. C'est des promesses de vie éternelle en Christ, dans la présence de Dieu. Promesses de sainteté qui débutent déjà ici-bas et qui sera pleinement parachevée à notre mort ou lors de son retour. Promesses de persévérance dans la foi. Promesses de connaissance intime de notre Seigneur et Sauveur, de Dieu le Père et du Saint-Esprit qui vit en nous. Et même, promesse de pleine santé physique pour l'éternité, dans un corps glorifié comme celui de Jésus. Et la liste qu'on pourrait rajouter est encore longue. En résumé, Dieu nous fait participer à sa nature divine. Il partage avec nous sa vie éternelle et aussi son caractère, nous donnant tout ce qui est nécessaire pour progresser à la ressemblance de son Fils. En nous donnant de participer à sa nature, il nous fait aussi échapper à la corruption, littéralement à la décomposition, à la pourriture qui sévit dans ce monde. Puis, dans les versets 5 à 7, nous avions vu que dans la vie chrétienne, la grâce ne s'oppose pas aux efforts. La grâce de Dieu ne s'oppose pas à ce que nous fournissions des efforts. Après avoir souligné que nous ne manquons de rien pour cette vie en vue de la vie éternelle avec Dieu, Pierre nous exhorte en retour à faire tous nos efforts pour ajouter des qualités à notre foi. En d'autres termes, pour progresser dans la sanctification. Remarquez que par deux moyens, Pierre indique que les efforts pour grandir dans les qualités décrites s'adressent qu'aux chrétiens. Le premier, Pierre commence cette liste par « à cause de cela même ». Donc, parce que Dieu a accompli en nous les réalités que nous venons de voir, nous avons à faire tous nos efforts. Rappel, impératif, indicatif, impératif ce que je dois faire, ce que je suis appelé à faire, indicatif ce que Dieu a fait, donc ce que je dois faire doit toujours reposer sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a affirmé. Le deuxième élément, ces qualités doivent être ajoutées à notre foi. cela présuppose que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Si je ne suis pas en Christ, je n'ai pas reçu la nouvelle naissance ni la foi. Je n'ai donc pas reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété et qui désormais me rend capable de participer activement à l'œuvre de Dieu en moi. Il ne sert à rien que je cherche à les vivre. Il faut d'abord que j'aille à Christ pour recevoir le don du salut gratuit, reconnaissant que je suis incapable de me sauver moi-même, et alors je pourrai progresser conjointement avec l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Alors si vous êtes en Christ, vous vous demandez peut-être comment grandir dans ces choses. Je ne sais pas à vous, mais moi la première fois que j'ai abordé cette liste pour la prédication, je me suis senti un petit peu découragé en fait. Mais voilà deux éléments qui m'ont aidé et qui continuent à le faire. Le premier est que ces choses se trouvent en Christ, que si nous sommes appelés à faire tous nos efforts, nous devons nous rappeler que c'est sur Dieu et en son œuvre, sur son œuvre en nous que nous devons nous appuyer. C'est par lui que nous avons reçu tout ce qui contribue à progresser dans ces choses. Et la deuxième chose est simplement d'apprendre ce passage par cœur, directement les versets 3 à 11. Alors peut-être que vous auriez souhaité une méthode un peu plus simple, mais avoir ce passage en tête et se le rappeler, par exemple dans des moments d'épreuve, est pour moi quelque chose qui m'aide réellement, qui continue à le faire. Et puis au verset 9, nous avions vu que si une personne ne possède pas ces qualités, elle est comme un aveugle, elle ne va pas plus loin que les choses de cette terre. Elle a même mis en oubli la purification de ses anciens péchés, qui à quelque part est l'élément principal du salut. Elle ne voit que ses intérêts immédiats, et elle a oublié qu'elle n'est qu'un voyageur ici-bas. Elle a oublié que sa vraie patrie est dans les cieux. Mais à l'inverse, avec les versets 8, 10 et 11, nous avions vu que celui chez qui ces fruits existent et se multiplient, il grandira dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui, pour rappel en passant, au verset 2, est la manière dont la grâce et la paix aussi sont multipliées dans notre vie. Croître ainsi amènera à être affermi dans notre vocation et notre élection, verset 10. Non pas qu'il nous manque quelque chose à notre salut, mais Pierre fait référence à notre expérience en tant que chrétien. Ceux qui, comme moi, peuvent traverser des périodes de doute dans le salut savent combien la croissance dans la confirmation de notre vocation et de notre élection, en d'autres termes dans l'assurance du salut, est précieuse et désirable. Et c'est en croissant dans ces choses qu'elle augmente également. Et pour finir, verset 11, Pierre nous encourage à faire tous nos efforts en nous montrant qu'au jour de la fin, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera largement accordée. Le psaume 24,7 dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. » Alors ça ne parle pas de nous, ça parle de Christ, mais nous sommes en Christ et nous marchons à sa suite, et de la même manière, les portes du paradis nous seront grandes ouvertes en raison du roi de gloire qui nous sauve. En résumé, Pierre nous parle d'un salut gratuit, entièrement par grâce, et dans lequel il ne manque rien en vue de notre persévérance ici-bas et de notre vie éternelle. Que pour cette raison, nous sommes appelés à faire tous nos efforts en nous appuyant sur Dieu pour grandir dans les qualités mentionnées à l'image de Jésus. Et pour finir, que les fruits d'une telle vie nous amèneront à atteindre notre destination en toute sécurité et certitude. Alors pour nous qui nous disons chrétiens, j'aimerais nous poser une question. Il y a 3 mois maintenant qu'on a eu cette prédication sur ce passage-là. Avons-nous grandi dans ces choses ? Alors peut-être que 3 mois c'est un peu court. L'œuvre de Dieu n'est pas toujours autant intensive dans toutes les phases de notre vie. Spurgeon disait lui-même que les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. Mais voyons-nous une volonté de nous détourner du mal, de continuer à nous repentir, de grandir à l'image du Seigneur ? Voyons-nous une croissance dans notre vie ? Il n'est pas possible d'être chrétien sans voir ce mouvement dans notre vie. Alors bien sûr, il peut y avoir des phases, mais quand on regarde depuis notre conversion, est-ce qu'on voit une progression dans ces choses ? Maintenant, si vous confessez Christ et que vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, ne désespérez pas. Vous avez peut-être cherché à le faire par vos propres forces, Alors tournez-vous de nouveau vers celui qui nous rend capable de ces choses, vers Jésus-Christ. Allez chercher en lui tout ce qui est nécessaire pour ces choses. Ce qui nous amène au deuxième point, les versets 12 à 15, l'importance d'en revenir au fondement. Versets 12 à 15, « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. » Alors à ce stade, pour ceux qui étaient là à la prédication précédente, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je viens de passer 5 à 10 minutes pour répéter ce que je vous avais déjà dit. Eh bien, simplement pour suivre l'exemple de Pierre qui, au verset 12, nous dit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. » À quoi vous répondrez peut-être « Oui, mais Marc, nous on les sait ces choses. » Oui, verset 12, « Bien que vous les sachiez déjà. » Attends, Marc, tu as peut-être mal compris. Nous, non seulement on sait ces choses, mais en plus on est affermi dans cette vérité. Toujours le verset 12, « Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermi dans la vérité présente. » Voyez, ce rappel ne s'adresse pas aux nouveaux convertis seulement. Mais Pierre a particulièrement en tête les chrétiens affermis. Lorsque par la grâce du Seigneur, nous cheminons depuis un certain temps, on grandit dans la connaissance de la parole. On a entendu l'évangile un grand nombre de fois et on pourrait, plus qu'un nouveau converti, être tenté de nous dire « Bon, les fondements c'est bon, passons à la suite. » Particulièrement dans notre monde actuel, ça fait 4 ans que j'ai la même voiture, il est temps de passer à autre chose, je veux une nouvelle. Oh, ça fait 2 ans que j'ai mon téléphone portable, je veux le dernier modèle. En fait, on est généralement assez friand de la nouveauté. Mais Pierre nous dit que concernant les choses spirituelles, dans notre vie chrétienne, il ne doit pas en être ainsi. Il est bon de progresser dans la connaissance. Ça fait même partie de ce qui nous est demandé au verset 15, croître dans la connaissance. De faire tous nos efforts pour croître dans la connaissance, de l'ajouter en plus de notre foi. Mais jamais au détriment des fondements. Toujours en revenant à ces précieux fondements du salut par grâce, accompli par Jésus-Christ et auquel nous répondons en faisant tous nos efforts. À 2 reprises, Pierre utilise le mot « rappeler » dans les versets 12 et 13 pour souligner l'importance de ne pas oublier. Ce sont des choses dont nous devons nous rappeler. Elles sont essentielles à une vie spirituelle en bonne santé. La semaine passée, je discutais avec un participant d'une formation que je donnais qui a fait de la moto à haut niveau, en compétition. Et il m'expliquait qu'en tant que pilote, ce qui lui permet de grappiller des millisecondes, voire des secondes, au tour par rapport aux autres participants, c'est le freinage. Ne pas freiner trop tard, parce que sinon on passe tout droit. Ne pas freiner trop tôt, parce que sinon on perd du temps. Freiner toujours plus au bon moment. Mais pourtant, alors je ne lui ai pas demandé, mais je pense pouvoir affirmer que c'est le cas, lorsqu'il a appris à faire du vélo ou de la moto, une des premières choses qu'on a dû lui apprendre, certainement, c'est de freiner. Vous imaginez le danger si je fais du vélo ou de la moto et que je ne sais pas freiner. Et pourtant, bien des années plus tard, alors qu'il se trouve en compétition, le voilà toujours et encore en train de travailler son freinage. La base. Même les compétiteurs doivent revenir à cette base. De la même manière, nous, on a à revenir à la base, l'évangile, et à toujours mieux comprendre l'évangile dans son entier et la manière dont il influence notre vie. Maintenant, pourquoi Pierre insiste-t-il autant là-dessus? Qu'est-ce qui est si important pour que Pierre considère comme essentiel de le rappeler, et même, si vous regardez le verset 15, de faire en sorte que par cette lettre, nous puissions encore nous en souvenir après son départ? Il dit au début du verset 12 « Voilà pourquoi je vais toujours ». La réponse se trouve là. Mais à quoi fait-il référence en disant « Voilà pourquoi » Il fait référence aux éléments qu'il vient de citer au verset 10 et 11. Pour affermir notre vocation et notre élection, et parce que en le faisant, nous ne broncherons jamais, et c'est ainsi que nous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça que Pierre a en vue, c'est ça qu'il souhaite nous amener à atteindre. Si je devais résumer en trois mots, je dirais persévérance des saints. Persévérance des saints, notre persévérance. Pierre veut notre persévérance, que nous tenions ferme dans la foi jusqu'à la fin. Il sait que Dieu est le garant, que c'est lui qui nous fera persévérer jusqu'au bout. Mais comme on l'a déjà dit, il sait aussi que dans la vie chrétienne, la grâce ne s'oppose pas aux efforts. Et qu'un signe que nous sommes sauvés est que nous allons participer activement à cette œuvre de persévérance. Il s'agit donc d'éléments essentiels qui vont par leurs fruits dans notre vie confirmer notre vocation et notre élection et vont contribuer à nous garder debout en vue du jour de notre entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou en vue de son retour. Donc voilà ce que Pierre a en tête et ce qui l'amène à considérer juste de nous tenir en éveil par ses rappels et même à s'assurer que nous pourrons en tout temps nous souvenir de ces choses. Alors encore une fois, ce qui était nécessaire à l'époque de Pierre le serait-il moins pour nous aujourd'hui ? Non, de manière générale, la Bible ne nous annonce pas que plus on s'approche du retour du Seigneur, plus les choses iront bien. Donc nous avons toujours encore besoin de ces précieux conseils. Alors que faire ? Eh bien, méditons régulièrement la bonne nouvelle, tout ce qui l'entoure, la lecture quotidienne de la Bible. Réfléchissons à ces textes, à ce qu'ils signifient et ce qu'ils impliquent dans notre vie. Cherchons à vivre ces choses avec l'aide de Dieu. Chantons régulièrement des cantiques par la louange. Leurs paroles nous rappellent et nous interpellent sur ces merveilleuses réalités tout en nous rapprochant du Seigneur. Aussi, les réalités et les illustrations qui entourent la bonne nouvelle du salut sont nombreuses. Un esclave racheté, une dette payée, un enfant adopté, l'ennemi de nos âmes vaincu. Lors de nos moments de prière, pourquoi pas commencer à remercier le Seigneur pour le salut et le faire à chaque fois en le faisant avec une image que la Bible nous propose qui est différente. Cela nous évitera de tomber dans la routine et nous aidera à rester sensibles aux différentes réalités du salut. Par exemple, on peut commencer une fois par louer Dieu parce que j'avais une dette impossible à payer et que Christ l'a payée pour moi à la croix. La fois suivante, le louer parce que j'étais esclave d'un tyran, du péché, et que Christ a vaincu ce tyran en me libérant pour que je lui appartienne et que je vive une vie nouvelle pour lui. La fois d'après, le louer parce que j'étais une brebis égarée et qu'il est venu me chercher. Ou encore que j'accumulais un trésor de colère sur ma tête en vue du jugement, mais que Christ a porté ce jugement à la croix, a pris sur lui ce trésor de colère. Ça va aussi nous garder dans l'humilité et contribuer à ce que nous bâtissions sur le socle solide et sûr de la grâce dont les mérites en reviennent à Dieu seul. Pour résumer ce deuxième point, il est bon que nous ayons soif d'en connaître toujours plus à propos de Dieu et de sa parole. Mais nous ne devons pas mépriser la base, et même il est vital que nous y revenions sans cesse dans la prière et dans la lecture de la parole, etc. Et ça nous amène au troisième et dernier point de cette prédication, l'autorité de la parole, les versets 16 à 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, au chapitre 3, verset 16, Pierre nous parle des lettres de Paul, dans lequel il se trouve des passages difficiles à comprendre. Alors je dois dire qu'avec les versets 16 à 19, Pierre nous a aussi laissé un bel os à ronger. Du moins, il m'a occupé et même préoccupé pendant de bonnes heures. Il y a en fait certains points où il existe différentes compréhensions possibles, et des théologiens tout à fait sérieux n'en ont pas forcément la même compréhension. À prime abord, ce passage peut sembler assez simple en fait. Mais plus je l'ai creusé, aussi en lien avec le verset 15, plus je me suis rendu compte que l'interprétation de tel ou tel passage va avoir une influence sur la compréhension de tel autre passage. Mais quoi qu'il arrive, ces différentes approches ne sont pas problématiques, parce qu'elles pointent toutes au même endroit. Je m'explique. Certains, pour aller à Neuchâtel depuis ici, vont partir en sortant du parking à droite, et ils vont le longer Peseux par le bas. D'autres, en sortant du parking, vont partir à gauche et vont traverser Peseux par le centre. Deux chemins différents, mais ils arriveront au même endroit. Donc ici, ces différentes compréhensions aboutissent toutes au même but. L'autorité de l'Écriture, la gloire de Dieu et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aurai malheureusement pas la possibilité de traiter les différentes approches, sinon on serait encore là cet après-midi, ni de les résumer avec leurs implications qu'elles comportent. Ce serait décidément trop long. Je vais vous partager la position qui, après des réflexions, me semble le plus probant en lien avec les indices qu'on trouve dans ce texte, de manière plus générale dans l'épître et de manière encore plus générale dans le message de Pierre au travers de la première épître et de la deuxième épître de Pierre qu'on étudie. Je répondrai certainement pas à toutes les questions que vous pourriez avoir, mais je compte sur vous, si vous avez des questions, pour vous sentir libre de venir en parler après le culte. Donc voici ce que Pierre aimerait que nous ayons comme certitude. Le Seigneur revient. Ce monde, la terre et les cieux sont en voie de dissolution, de destruction. Le retour du Seigneur sera glorieux. Il est venu dans un premier temps en serviteur, pour servir et sauver. Mais à son retour, ce sera en roi des rois, Seigneur des seigneurs qu'il reviendra. Le Dieu glorieux. Venant pour juger les hommes et pour chercher ceux qui se sont confiés en lui. Mais bon, cet événement est-il véritable? Aura-t-il bien lieu? Il y a bien des faux enseignants pour remettre la chose en question, et Pierre traitera ça dans le troisième chapitre. Mais ici, Pierre, avec Jacques et Jean, ont assisté à un événement qui les a profondément marqués. Une expérience durant laquelle, pendant un instant, ils ont vu la gloire du Christ, sa royauté, sa majesté, sa divinité. Sa divinité confirmée par l'intervention d'une voix pleine de gloire et de majesté, celle de Dieu le Père, cette voix qui attestait que Jésus est le Fils avec un F majuscule, bien-aimé du Père. Une expérience qui a bouleversé les apôtres qui étaient présents. C'est le passage de la transfiguration de Jésus que Roland nous a lu en introduction. Ainsi, Pierre nous indique que contrairement aux faux enseignants, dont l'enseignement repose sur des fables, sur des inventions, sa prédiction, son annonce du retour du Seigneur, repose sur ce fait hautement véridique et historique. En assistant à la transfiguration, Pierre a assisté à une préfiguration du retour de Christ qui se fera en gloire. C'est un peu comme si le retour du Christ était caché derrière un voile et que pendant un moment, le voile avait été ouvert et que Pierre, Jacques et Jean ont pu voir à quoi ça ressemblera. Et ça s'est refermé. Et ça leur a donné une grande certitude quant à la réalité du retour de Jésus. Et c'est comme si ils pouvaient dire « J'ai été témoin de cette seigneurie. Ne doutez plus, je l'ai vu, c'est véritable. » Même si les mots ne suffisent pas pour le décrire. Au verset 19, suite à cette expérience, Pierre dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Et ici, je vais quand même vous présenter les deux interprétations possibles de ce passage, parce que je pense que ça peut nous aider. Les deux interprétations nous invitent à ne plus douter de l'Écriture. Ça, c'est un fait. Voilà la première interprétation. Le fait que cette expérience a été pour eux la confirmation de prophéties concernant le Messie. On trouve bon nombre de prophéties qui annoncent la venue du Messie comme un roi puissant, comme étant Dieu lui-même. On peut prendre par exemple Ésaïe 9.5, mais il y en aurait d'autres. C'est pour une question de temps ici que j'ai réduit. Ésaïe 9.5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, Pierre, jusqu'ici, avait vu un homme faisant des miracles. Bon, il y en a eu d'autres avant lui. Élie, Moïse ont fait des miracles et d'autres encore. Il a vu un homme d'une sagesse hors du commun. Avait-il constaté que Jésus était sans péché? Pas sûr. Notre propre nature déchue et pécheresse peut nous amener parfois à voir le péché là où il n'y en a pas. Par exemple, un événement en Marc 8, 33, lorsque Jésus annonce ses souffrances et sa mort, Pierre s'est opposé à Jésus et lui a fait des reproches. À quoi Jésus avait répondu « Arrière de moi, Satan ». Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre, juste avant, venait de confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Une confession merveilleuse qui mène au salut et qui pourtant, juste après, est suivie de reproches à celui qu'il qualifie comme le Christ, le Fils de Dieu. Donc vous voyez, des fois, ici, ce que je veux dire, on n'est pas mieux que Pierre, mais des fois, dans notre nature déchue, on sait qu'une prophétie est vraie, mais on a encore un peu une tension, en fait, en nous. Mais voilà que 6 jours plus tard, le voilà témoin de la transfiguration. Alors on peut facilement imaginer que si nous sommes témoins d'un tel accomplissement de la parole, notre confiance dans la parole dans son entier est fortifiée. Par exemple, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour du Seigneur, environ. Nous le croyons. Nous le confessons. Nous l'attendons avec certitude. Mais ce n'est pas la même chose que de le voir se réaliser devant nos yeux. Et c'est cette différence que Pierre aurait vécue. Il croyait dans ses prophéties, il croyait dans la divinité de Christ. Mais il y a une différence de soudain le voir se réaliser devant nos yeux. Soudain, ses paroles ne font plus aucun doute. Elles sont accomplies, on ne peut plus en douter. Et donc, on se dit finalement, comment j'ai pu douter du reste des Écritures? Si ça c'est vrai, alors à plus forte raison, le reste également. Donc c'est de cette manière que Pierre ici nous encouragerait à prendre conscience de la réalité, de la véracité, de l'authenticité et de l'autorité des Écritures. Et voilà la deuxième façon de comprendre, elle tient à la façon dont on va traduire ce passage, qui est une traduction un peu différente, mais qui en fait reflèterait également le sens du texte grec. Alors, je dis reflèterait parce que moi j'ai pas les connaissances pour pouvoir en juger, mais des personnes bien positionnées qui connaissent ça l'affirment. Donc l'affirmation où il est écrit « et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique », comme Pierre qui dit « maintenant que j'ai vu ça, j'ai encore plus confiance dans la parole », pourrait aussi être traduite par « et nous avons la parole des prophètes qui est plus sûre ». Et nous avons la parole des prophètes, la Bible, qui est plus sûre. En comprenant ainsi, voilà probablement ce que Pierre cherche à nous faire comprendre dans ce cas. J'augmente un peu et je paraphrase. Nous avons vécu une expérience hors du commun. Rendez-vous compte. Le Christ révélé dans sa nature divine sous nos yeux. La voix du Père qui témoigne de la divinité de son Fils. Vous imaginez? Nous étions dans l'effroi, terrifiés. Et pourtant, nous considérons le témoignage des Écritures comme plus sûr encore que ces choses. Alors appuyez-vous dessus. Finalement, comme je l'ai dit, qu'il s'agisse de la première compréhension ou de la deuxième, le but de Pierre est de valoriser l'autorité de la Bible à nos yeux. Soit par l'accomplissement des prophéties dont il a été témoin, particulièrement concernant l'autorité et la divinité du Christ lors de sa transfiguration, soit par l'autorité qu'il attache à la parole qui est supérieure à l'expérience, dans ce sens qu'elle est plus complète, plus permanente et fait plus autorité que l'expérience de qui que ce soit. On peut être trompé en fait, on peut avoir une vision. D'ailleurs, plusieurs religions reposent sur la vision qu'une personne aurait eue. Et ce que Pierre ici nous dirait, c'est que oui, c'est impressionnant, mais la Bible est encore plus impressionnante, elle est encore plus fiable pour juger du message, pour juger de tout ce qui est annoncé. Également, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des approches, la transfiguration est un événement qui permet de démontrer l'authenticité du retour en gloire de Jésus. Et je pense que c'est le point important à retenir, l'autorité de la parole et la certitude du retour de Christ. Alors on va terminer avec la dernière partie du verset 19. Nous vivons dans un monde déchu, un monde obscur, privé de la vraie lumière qu'est Dieu. Mais Dieu nous a donné la parole prophétique, la Bible, à laquelle nous devons prêter attention comme à une lampe qui brille dans la nuit. Imaginons un instant qu'on vive dans un monde de ténèbres. Un monde où il n'y a pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, pas de lampe. On ne voit même pas nos mains. Mais voilà que soudain, une lampe apparaît et nous permet de nous diriger. Certainement qu'on va aller vers cette lampe qui va éclairer notre sentier et qu'on ne s'en détournera pas maintenant qu'on l'a. On pourrait même alors dire qu'on la chérira. Désormais, on voit où on marche. Voilà comment Pierre aimerait que nous considérions et que nous chérissions la Bible. Jusqu'à quand? Juste pour le début de notre conversion, après on peut passer à autre chose? Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Le jour fait référence ici au jour du retour du Seigneur. L'étoile du matin, littéralement, c'est Vénus. Enfin, pas littéralement, mais dans le contexte de l'époque, le terme utilisé faisait référence à Vénus. Et dont on dit qu'elle amène l'aube. En Nombre 24-17, Jésus est comparé à un astre. En Apocalypse 22-16, Jésus s'applique lui-même le terme d'étoile brillante du matin. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à ce grand jour qui sera amené par le retour de Jésus, comme l'étoile du matin amène l'aurore. En ce jour, son retour apportera la lumière et la joie dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. En résumé, le retour du Seigneur est certain. Pierre a vécu une préfiguration qui lui a laissé un souvenir impérissable, une expérience sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec confiance pour mener notre vie à la lumière du retour du Seigneur. Pierre nous montre aussi l'importance de nous éclairer par la parole. Ne nous lassons pas de la lire et la relire. C'est une source d'autorité infaillible, le bien matériel le plus précieux que nous ayons, ici-bas, car elle est la parole de Dieu. Elle est ce dont nous avons besoin pour nous diriger dans ce monde de ténèbres. Méditons l'Évangile, les souffrances de Christ pour nous et sa gloire, son retour futur et ce qu'il implique pour nous dans notre façon de vivre. Revenons-en au fondement, en vue de notre persévérance et du retour du Seigneur, tout en croissant dans la connaissance. Par toutes ces choses, pour toutes ces choses, appuyons-nous entièrement sur Christ, qui œuvre en nous par son Esprit Saint. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous fortifie, nous encourage et nous bénisse. Je vais encore prier. Seigneur, ma prière en terminant, c'est que tu œuvres dans nos cœurs pour que ces paroles que j'ai pu dire, qui reposent sur ta parole, puissent nous transformer, nous amener à vivre une vie de fidélité, à grandir dans la fidélité, à tenir ferme jusqu'au terme. Seigneur, tu vois que nous avons désespérément besoin de l'œuvre de ton esprit parce que par nous-mêmes, on ne pourrait rien faire. Mais merci, parce qu'en nous donnant ton esprit, tu nous donnes tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et par ta parole, tu nous fais grandir. Tu nous amènes à être toujours plus à la ressemblance de ton Fils. Seigneur, veuille utiliser ta parole pour travailler nos cœurs. Au nom de Jésus, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.